Proche-Orient est compliqué, comme j'ai l'habitude de le mentionner. Aujourd'hui, une déclaration importante nous vient des États-Unis et, bien sûr, comme toujours, les déclarations de Trump amusent certains, étonnent d'autres, agacent. Mais il y a toujours quelque chose derrière. Dans un discours qui a duré plus de 30 minutes, Trump annonce que voici qu'après 3000 ans d'histoire, la paix arrive au Proche-Orient. Et vous êtes étonnés comme moi, comme d'autres, comment cette paix arrive alors que le Liban est régulièrement bombardé par Israël, que la milice de Hezbollah est toujours surarmée, même si elle est diminuée, et que finalement les Iraniens se rechignent et puis font comprendre à tout le monde que l'enrichissement de l'uranium, personne ne peut les arrêter de continuer. Et même les agences d'observation et d'autres. Cela est étonnant, mais pour comprendre Trump, il faut comprendre aussi ses rêves, ses paradoxes. Et là, on retrouve que derrière cette déclaration, il y a des choses concrètes qui arrivent. Pour Trump, voilà une première stratégie. Pour Israël, voici une deuxième stratégie qui s'y cache. Pour l'Iran, une troisième stratégie. Pour les pays du Golfe, une autre stratégie. Pour le Liban et la Syrie, deux pays si proches, trop proches parfois, quand l'armée syrienne au temps d'Assad occupait le Liban pour plus de 30 ans. Et là, vous avez de quoi comprendre dans cette stratégie. Bon, celle de Trump, celle qui agace et qui étonne tout le monde, elle était simple jusqu'aujourd'hui, en finir avec le régime iranien. Et il considère que c'en est fini, puisque la première génération, celle de Khamenei, celle de Soleimani et celle de tous les grands fondateurs depuis plus de 45 ans de ce régime, sont assassinés et ils ont disparu. Une autre remplace, et ils furent durs dans le dialogue. Il considère que là, il y a une nouvelle génération, et il a utilisé le terme, très important, rationnel. Et pourquoi il est important? Parce que ce terme rationnel, c'est celui qui définit tout le traité de nos proliférations nucléaires. Un État peut posséder le nucléaire s'il a une attitude, des institutions et un discours rationnel. Tout est philosophique dans cette histoire. Et Trump résume son attitude en disant « Finalement, nous avons une équipe rationnelle et avec elle, je peux réaliser cette paix du Proche-Orient, mais jamais l'Iran n'aura la bombe. » Mais en échange, le détroit d'Hormuz sera ouvert, le prix du pétrole a baissé, les gens vendent leur pétrole, nous tenons l'Iran et s'ils commettent la moindre erreur, dit-il, et je le cite textuellement, we'll bomb them et on va les bombarder de nouveau. En d'autres termes, il a une telle maîtrise par les armes qu'il peut arrêter la guerre. Mais cela, bien sûr, cette stratégie qui a pour but, premièrement, garder la maîtrise de cette région par le flux de pétrole, par le prix de pétrole, qui a un autre but de garder la force du dollar, monnaie d'échange, et puis qui a pour but de montrer que c'est les États-Unis qui guident stratégiquement dans cette région et que les pays du Golfe, fatigués de recevoir des missiles sur la tête, sont rassurés aujourd'hui de continuer leur commerce du pétrole et que le monde entier est rassuré car les Américains, ils manient le bâton et la carotte. Mais en face, il y a la stratégie d'Israël. Et là, le monde a assisté à un dialogue presque shakespearien entre Trump lui-même et Netanyahou. Considérer ce fameux Bibi comme étant un type agaçant qui fait haïr Israël à travers le monde, et Trump va plus loin en lui disant « J'ai sauvé ta peau, j'ai te sauvé de la prison, de la mort et tout cela ». Cela sonne comme une affaire familiale. Parce que Kouchner et l'équipe qui s'occupe d'Israël, et ils sont tous d'origine juive, n'ont pas tardé à montrer leurs différends aussi avec Netanyahou lui-même. Mais Netanyahou garde sa stratégie. Elle consiste en un point important, détruire la milice de Hezbollah au nord d'Israël, au sud du Liban, pour permettre à Israël d'assurer sa sécurité. Ça, c'est le point le plus pour lui le plus proche de nous, car chaque jour, le sud du Liban voit un bombardement détruire un immeuble ou des tunnels dans les hautes sphères jusqu'à 1000 mètres d'altitude, jusqu'aux anciennes forteresses des Croisés, Beaufort et d'autres. Et Israël justifie cela que finalement, qu'elle était la seule à pouvoir désarmer cette milice. Et que plus tard, une fois qu'elle a désarmé cette milice, tous les points occupés et tous les villages, même détruits par Israël, seront rendus aux forces de l'armée libanaise qui doit prouver à chaque étape qu'elle est capable d'assurer la sécurité du pays. Voilà la stratégie d'Israël et de Netanyahou. Et sur ce point, elle ne se contredit pas avec celle des États-Unis, car les États-Unis, ici, même dans le Sud, veulent revenir avec force, maîtriser la situation et reconstruire. Et cela, nous le savons, que sur ce point, Netanyahou et les États-Unis ne sont pas en désaccord, même si Trump demande un cessez-le-feu. Et que ce cessez-le-feu pour 60 jours lui permettra de redorer une situation permettant à tous les républicains peut-être de gagner en novembre prochain les mi-termes et de ne pas perdre les chambres. Mais autour de ces stratégies puissantes, il y a les stratégies, disons, un peu d'oratoire, faibles, mais qui ont la capacité, par leur force de terrorisme, leur force de résistance, de durée. Et c'est la stratégie iranienne elle-même. L'Iran sait qu'elle a perdu beaucoup. Plus de 30 ans sont nécessaires pour reconstruire l'État iranien, pour reconstruire l'armée iranienne, les navires détruits, pour la flotte tout entière, même s'ils ont cette capacité de missile et cette capacité de fermer le détroit d'Hormuz. Cette stratégie iranienne agace les États-Unis et Trump menace que si les négociations dans les hauteurs des montagnes suisses n'aboutissent pas, les États-Unis reviendront pour bombarder et détruire justement l'infrastructure de ce pays. Trois stratégies donc qui s'interpénètrent. Et le pauvre Liban, lui, ne pense qu'à une chose, une sécurité possible, imaginable, par le moyen des négociations directes. Et c'est ce qu'a obtenu le président Joseph Aoun, c'est que la stratégie libanaise est modeste, mais elle est nouvelle. C'est que l'État libanais a pris en charge sa destinée et que finalement les négociations se font sans la milice de Hezbollah, car elle est désormais considérée comme hors la loi. Elle ne se fait qu'entre gouvernement israélien et gouvernement libanais. Trump, l'ambassadeur américain au Liban, Issa, d'origine lui-même libanaise, chrétienne libanaise et même maronite, annonce là le début d'une normalisation qui se fera dans l'avenir. Et cette stratégie libanaise, elle est intéressante parce qu'au moment où Liban déclare sa milice comme étant hors la loi, la milice de Hezbollah, l'Irak, lui, il déstructure absolument toute cette stratégie milicienne et offre au monde une scène étonnante dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est que toutes les milices sont désarmées et toutes les forces irakiennes, même pro-iraniennes, doivent rejoindre l'armée irakienne nationale. C'est un point fort acquis pour tous ceux qui veulent détruire l'axe des proxys d'Iran qui va du sud de l'Irak au sud du Liban et du sud du Liban jusqu'au sud du Yémen. Voyez-vous, les choses se préparent. Et cette idée que depuis 3000 ans, nous n'avons pas vu de paix dans cette région n'est pas si fausse que cela. Mais, pour conclure, elle se fera avec la naissance d'une nouvelle puissance. Et cette nouvelle puissance, en face de toutes ces stratégies, c'est la stratégie qui dure. Elle dure presque, nous ne sommes pas loin de la quatrième génération d'une guerre de 100 ans. Elle dure depuis la création de l'État d'Israël. Et tout autour d'Israël, les pays arabes doivent trouver leur rôle. Ce rôle, Trump, avec les États-Unis, veut que ce soit les accords d'Abraham. On normalise avec Israël l'échange commercial, culturel, ouverture des frontières. Mais Israël a une exigence, elle qui est gagnante de toutes ces guerres. c'est que toutes les frontières partant de son nord, le Sud-Liban, l'Irak, la Syrie et même l'Iran prochainement, car elle ne cédera pas et elle n'arrêtera pas la guerre avant d'avoir détruit ce régime iranien. Ils attendent le moment qu'il faut, peut-être une nouvelle colère de Trump, mais assurer toute cette ligne de frontière, c'est retrouver la stratégie de l'Empire ottoman. Vous savez, les Turcs et le sultan turc n'a pu durer pendant 4 siècles, et l'Empire ottoman avec, cet homme malade de l'Europe, comme on l'appelait, jusqu'à du XVIe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est parce que tout simplement, ils assuraient les frontières, pénétraient les pays quand ils le voulaient, ne s'y installaient jamais, sauf par des brigades et des régiments, prélevaient des taxes, jamais de politique culturelle, et en fin de compte, divisé pour régner. Divisé qui ? Bah, toutes les minorités du Proche-Orient. Les maronites contre les druzes, les islamistes sunnites contre les chiites, et c'est ce qu'Israël finalement, les Kurdes contre les sunnites. Et de l'autre côté, Israël, voyant ses frontières assurées, pourra alors devenir une sorte d'empire. Et l'Amérique de Trump ou une autre Amérique ne pourront, et ils l'ont dit d'ailleurs il y a 2 jours, ne soyez pas étonnés que la sécurité d'Israël soit pour nous le but et l'ultime et la finalité de toutes les stratégies que nous pouvons faire au Proche-Orient. Certes, les Romains ont joué ce rôle, et avant eux, les Grecs et les Turcs, après eux, et même les Croisés. Et dans cette région où les Croisés, ce qu'on a appelé la région du royaume de Jérusalem, une dernière stratégie voit sa fin arrivée, c'est celle de la finule. Depuis 78, et l'idée générale et universelle que la sécurité de ces casques bleus permettra à ne pas avoir des milices armées aux frontières assurées, tout cela a échoué. Parce qu'Israël montre les tunnels construits, montre la stratégie militaire du Hezbollah qui a fleuri sous les villages, qui a était pour eux le bras armé le plus puissant et la milice, disons armée, Pasdaran de l'Iran, tout cela, la finule n'a pas pu l'arrêter. Et c'est pourquoi d'ici fin décembre 2026, la finule doit quitter. Et toute la stratégie française, car il ne faut pas oublier, il y a une stratégie française, celle que Le Drian, notre ministre bien-aimé au Liban, veut absolument provoquer d'une façon diplomatique et de l'Union européenne, il voudrait créer une nouvelle force européenne, presque la moitié de la finule, mais qui ne soit pas dirigée par la finule et qui assure au Sud-Liban une présence pour les intérêts du Liban et les intérêts de ce que Total pourra faire au Liban pour l'extraction du gaz et pour cette présence française qui commence à être elle aussi millénaire depuis les croisades. Voici, chers amis, toutes les stratégies qui sont en forme de cristallisation. Et puisque j'ai parlé de cristallisation, nous savons, comme l'amour chez Stendhal, il est cristallisation et fascination. L'Orient fascine parce qu'il cristallise toutes nos passions et toutes nos haines. Voilà pour la chronique, et puisque j'ai parlé de Stendhal et puisque j'ai évoqué cette cristallisation, comme vous le savez, le journal libre des jeunes favorise les chroniques des jeunes. Et là, à la fin de ce mois de juin, je vous parle, mais c'est un enregistrement, donc vous ne pourrez me répondre que par mail. Je reçois 2 figures de notre jeunesse qui sont toutes deux romaine, Clotilde Ducrot. Est-ce que Clotilde Ducrot, elle m'entend déjà ?
Oui, je vous entends.
Alors, vous êtes à Rome maintenant, n'est-ce pas, chère Clotilde ?
Exactement, oui.
Alors, je vous ai proposé de rejoindre nos chroniques romaines et à côté de cette histoire de guerre et de terrible dans le monde, Rome qui a conquis le monde, vous avez choisi de me parler un peu de votre université qui n'est autre que la
L'Université pontificale grégorienne.
Et voilà, qui est celle des jésuites. Et j'ai voulu que nos auditeurs sachent que nos Français, car Clotilde Ducrot n'est pas romaine, elle est française, et que finalement leur présence auprès de ces grandes universités nous permet un peu de rayonner et que la francophonie reste présente. Donc on écoutera Clotilde Ducrot, étudiante en théologie, n'est-ce pas, Clotilde?
Oui,
Et en
en première
philosophie.
année de baccalauréat
Et en
et en
philosophie
philosophie,
aussi, à l'Université française de Nanterre, c'est ça?
oui.
Voilà, un double cursus et elle nous fera une chronique sur l'importance de cette université jésuite qui, quand même, comme l'Empire ottoman, dure depuis le XVIe siècle. Et les jésuites, on ne peut pas s'en libérer facilement. Après Clotilde, j'aurai la joie de recevoir une autre chroniqueuse. Est-ce qu'elle m'entend? Marie-Louise Malfette.
Oui, je vous entends très bien, cher Antoine.
Alors, Clotilde, c'est une première et j'espère qu'elle commettra cette erreur avec nous une autre fois. Marie-Louise, j'ai parlé de cristallisation comme ça spontanément à la fin de ma chronique du Proche-Orient, mais je crois que cela vous rappelle un auteur, comme je l'ai dit, qui vous est cher, Stendhal, n'est-ce pas?
Exactement, exactement.
Et vous avez, je me rappelle, il y a pas mal de temps, vous m'avez dit que vous souhaitez faire une sorte de chronique assez riche sur Stendhal et Rome ou toute l'Italie?
Rome. Rome
Rome.
sera la ville de cette chronique, en effet.
Parfait, parfait. Bon, est-ce que on peut se permettre de donner la parole à Clotilde Ducrot, puisqu'elle est notre première invitée? Et Clotilde Ducrot, je vous donne la parole pour une chronique sur, bon, je vais provoquer le mot, la gloire et de la grégorienne, et puis sa présence, et puis comment elle se présente aujourd'hui à Rome.
Oui, tout à fait. Donc, l'université pontificale grégorienne s'étend déambulant dans le centre de Rome, à travers les rues qui séparent la fontaine de Trevi du monument Victor Emmanuel II, que les passants, que ce soit des touristes, des étudiants ou des religieux, risquent de tomber sur son imposante façade néoclassique, sur laquelle flotte de temps à autre le drapeau du Saint-Siège. On peut imaginer un début de matinée romaine. Il est autour de 8h30. On croise devant ce bâtiment quelques prêtres en soutane et des séminaristes pressés qui, après avoir accroché leur vélo sur la Piazza della Pilota, montent quatre à quatre les marches de l'édifice, soucieux d'arriver à l'heure pour ne pas manquer la prière du début du cours. On y croise également des religieuses, accueillant chaque étudiant avec un grand sourire lorsqu'ils franchissent le pas de la porte de l'amphithéâtre, ainsi que quelques laïcs qui se détachent du lot de clercs habillés en noir et bravent les regards étonnés de leurs camarades. Tous ces étudiants viennent du monde entier et de congrégations diverses pour étudier la théologie, le droit canonique, la philosophie ou encore l'histoire de l'Église dans cette université confiée aux jésuites par le Saint-Siège. Les origines de l'institution remontent au XVIe siècle. À l'ère de la contre-réforme catholique, la formation des prêtres devient, notamment suite au Concile de Trente, qui a eu lieu de 1545 à 1563, une priorité pour l'Église. La Compagnie de Jésus fait partie des acteurs majeurs de ce mouvement de réforme de l'enseignement catholique et de l'évangélisation. En 1551, Ignace de Loyola fonde la première école jésuite. Il s'agit au départ d'une école de grammaire, d'humanité et de doctrine chrétienne. Elle est dotée d'une bibliothèque et devient le Collège romain. Les chaires de philosophie et de théologie reçoivent l'approbation papale en 1556 et l'institution obtient alors le statut d'université. Et elle obtient donc du pape le droit de délivrer des diplômes de philosophie et de théologie. D'autres chaires sont créées par la suite, notamment dans le domaine des langues comme le latin, le grec ou l'hébreu. Le Collège romain connaît un développement important sous le pontificat de Grégoire XIII. Il est déplacé dans un nouveau bâtiment, celui qui reste connu aujourd'hui sous le nom du Collegio Romano, construit par l'architecte Bartolomeo Ammanati. Le nombre d'étudiants augmente rapidement et bientôt la chapelle universitaire devient trop petite pour les accueillir. Pour les remplacer, on construit à partir de 1626 la majestueuse église de Saint-Ignace, qui est un véritable emblème de l'architecture baroque et qu'il faut D'ailleurs, absolument aller voir au cours d'un séjour à Rome. À ce moment-là, l'école jésuite est divisée en deux institutions. Il y a le collège grégorien et l'université grégorienne. Tous deux sont nommés ainsi après le pape Grégoire XIII, reconnu comme fondateur et père de l'université en raison de son mécénat. L'histoire de la Compagnie de Jésus connaît cependant des périodes tumultueuses. En 1773, elle est suspendue par le pape après avoir été expulsée d'une grande partie des pays européens, donc notamment l'Empire portugais, la France, les royaumes de Naples et de Sicile, l'Empire espagnol, le royaume d'Autriche et d'Hongrie. L'université grégorienne est alors confiée au clergé séculier romain, donc au diocèse de Rome. Après la réhabilitation de la compagnie, l'université lui est de nouveau confiée, une cinquantaine d'années plus tard, en 1824, par le pape Léon XII. C'est à ce moment-là qu'est fondée l'université pontificale du Latran, qui, elle, sera confiée définitivement au diocèse de Rome. L'institution connaît une nouvelle période de troubles suite à l'unification du royaume d'Italie en 1870. Les biens et les bâtiments du lycée grégorien sont alors confisqués par le gouvernement italien. Il doit déménager, et donc le lycée grégorien doit déménager dans de nouveaux locaux qui sont beaucoup plus étroits. Le nombre d'étudiants baisse et beaucoup de facultés doivent être supprimées à ce moment-là. Seuls les départements de philosophie et de théologie perdurent lors de ces événements. 100 ans après le fait que l'université était rendue aux jésuites, en 1924, pendant le pontificat de Pie XI, la première pierre du bâtiment actuel de l'université pontificale grégorienne est déposée. Le nouvel édifice est construit à côté de l'Institut biblique pontifical, qui lui a été fondé en 1909 et qui est également tenu par les jésuites. On découvre alors qu'on va devoir bâtir le bâtiment en question sur les restes d'un temple antique dédié à la divinité gréco-égyptienne Serapis. À Rome, cœur de l'Église universelle, il n'est pas permis d'oublier que la religion catholique et le culte païen sont de tout temps voués à se rencontrer, à se toucher. L'une est bâtie sur les ruines de l'autre, l'autre ressurgit pour le lui rappeler. Sous les pieds du théologien, l'histoire de Rome interpelle, l'interroge et l'invite une fois de plus à relever le défi perpétuel de la défense de sa foi. Mais alors, qu'en est-il de la grégorienne actuelle? Depuis 2024, l'Institut oriental et l'Institut biblique, tous deux administrés par les jésuites, mais autrefois indépendants de la grégorienne, sont intégrés à l'université et s'ajoutent au Collegium Maximum pour former les trois corps de l'université actuelle. L'enseignement y est donc diversifié. La grégorienne abrite notamment différents centres de recherche, comme le centre Béat dédié aux études sur le judaïsme, le centre Pierre Favre à destination des formateurs à la vie religieuse, ou encore le centre d'études interreligieuses. L'université accueille plus de 3 000 étudiants aujourd'hui de 127 nationalités différentes. Et au grand désespoir, bien sûr, de l'ensemble des étudiants, le latin n'est plus la langue d'enseignement officielle depuis les années 70. Les universités pontificales ont souvent été le théâtre de disputes scientifiques et théologiques. La grégorienne ne fait pas exception à cette règle. Entre polémiques anticopernicienne et conflits avec l'ordre des dominicains sur le sujet du rapport entre la liberté et la grâce, par exemple, les jésuites participent tout au long de leur histoire et encore aujourd'hui aux grandes confrontations qui marquent l'histoire de la théologie et la font avancer, mêlant dangereusement enjeux politiques et philosophiques. En attendant leur tour d'apporter leur humble contribution à ce trésor, que l'on pourrait aussi qualifier de joyeux bazar intellectuel, les étudiants, professeurs et chercheurs de la grégorienne, assis dans le hall central ou autour d'une table du Grec Café, dont la réputation semble s'étendre au-delà même des murs de l'université, profitent tranquillement de leur pause pour refaire le monde autour d'un café longo. Et sur ce, j'arrive à la fin de ma petite présentation de la grégorienne, en espérant avoir réussi à transmettre une petite idée du climat particulier dans lequel j'ai la chance d'étudier.
Et c'est passionnant, ma chère, et quand je vous regarde, je vois derrière vous le tableau. Je me rappelle que je l'avais aussi de tous les papes, n'est-ce pas, en petite icône, je ne me trompe
Oui.
pas.
Oui,
Et bien,
exactement.
après votre passionnante chronique, si on prélève de ces papes des anciens de la grégorienne, on en cite, si je le regarde, Grégoire XIV, Urbain VIII, Innocent X, Clément XI, Léon XIII, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, Paul VI et Jean-Paul Ier sont des anciens de la Grégorienne. Donc, on a l'impression que, est-ce que cette impression que c'est une usine à fabriquer des papes, la Grégorienne, est-ce qu'il y a encore cette, je dirais, ce petite fierté, quoi, où l'esprit est un peu mondial, ou comme m'a dit un jésuite une fois, professeur là-bas, c'est le tiers-monde, c'est nous sommes envahis, on parle plus latin et tout cela. Et il y a encore cette fierté que la Grégorienne, entre guillemets, fabrique les futurs papes.
Je pense qu'il y a une certaine réputation qui perdure du fait qu'il y a beaucoup d'évêques qui ont été formés avant de devenir évêques, bien sûr, à la Grégorienne, et qu'effectivement, ils forment des hommes et des femmes qui seront appelés après à avoir des responsabilités dans l'Église. Mais c'est pas quelque chose qui se ressent, en tout cas pas à mon niveau. En baccalauréat de théologie, il y a ce côté vraiment universel où les étudiants sont de plein de nationalités différentes. Et cette ouverture-là.
Mais accueillir des jeunes de votre âge, qui sont déjà dans les formations des années de licence, je crois que vous avez commencé par faire Sciences Po, puis après Sciences Po, vous êtes tourné pour la philosophie, pour ne pas perdre, je vais pas dire votre âme, pour ne pas perdre un peu la profondeur culturelle, et puis vous vous êtes tourné vers la théologie. Est-ce que de votre génération, est-ce que la grégorienne accueille assez de gens à côté des séminaristes, des prêtres, des futurs évêques de
Ça
votre
se trouve de
âge?
plus en plus. Après, de mon âge, non, on n'est pas très nombreux. Je fais partie de... Pas 60 non plus.
Ah, d'accord. Bon, après.
Mais ça s'ouvre de plus en plus.
D'accord. Alors, on a cité les papes, mais moi, j'ai connu beaucoup de profs de la grégorienne quand j'étais à Rome. Nous avons les saints aussi. On parle de Bellarmine, quand même. On parle de Saint-Louis de Gonzague et on parle de Maximilien Kolb. Est-ce qu'à l'intérieur de la grégorienne, on voit leurs portraits, leurs bustes, ou les jésuites restent un peu discrets, quoi?
Et il y a plein de portraits de différents saints. Après, je n'aurais pas regardé de très près qui exactement est représenté et qui n'est pas représenté. Donc, je ne saurais pas vous dire si les jésuites ne représentent que les jésuites ou représentent les...
Et puis, il y a d'autres noms, les grands inventeurs scientifiques. On ne va pas toutes ces figures qui sont passées par là-bas. Donc, c'est l'histoire peut-être de l'intelligence humaine, comme le jésuite a voulu le faire. C'est la tentative d'Ignace de Loyola, etc. Maintenant, pour finir votre témoignage personnel, comment se font les études des théologies quand il s'agit de laïcs comme vous? Est-ce qu'ils vous mélangent avec les séminaristes, comme fait la catho de l'Institut catholique de Paris, ou ils vous laissent une marge, vous êtes un peu considérés comme un peu des anges gardiens qu'on protège à l'abri de la sévérité théologique et de la règle? Est-ce que la messe est indirectement obligatoire ou vous sentez que vous êtes un peu, je ne vais pas utiliser le mot que le pape a utilisé dans son encyclique, dans une sorte de Babel mondial où chacun pense ce qu'il veut, cherche ce qu'il veut, ou vous sentez quand même qu'il y a une présence priante avec des gens qui se retrouvent à la messe, etc., où chacun est libre de sa vie.
Et chacun est libre. C'est vrai que ben, moi, je suis comme tous les autres étudiants dans l'amphithéâtre avec les séminaristes et les religieuses et tous les autres laïcs. Non, il n'est pas obligatoire d'aller à la messe avec les autres étudiants, mais il y a aussi, je trouve, une atmosphère aussi très bienveillante qui, je pense, est propre aux universités catholiques. Pontificale, en tout cas, moi j'ai retrouvé ça surtout à la Grégorienne, avec oui, ce côté un peu fraternel entre les étudiants, entre eux.
Mais est-ce qu'il y a des clubs d'étudiants qui des aumôneries diverses? Parce que j'imagine que les prêtres qui font leur doctorat ou les séminaristes qui commencent leur baccalauréat théologique, ils sont là pour ils se sentent en mission aussi. Ils regardent des étudiants arriver de tous les pays. Il y a à peu près combien de nationalités à la grégorienne? Au moins une
Je crois que c'est
cinquantaine.
127.
127, c'est presque
Oui, je crois que c'est.
C'est presque le pays, le monde entier, là, presque.
Oui, ça vient de partout.
Pour finir avec ces réseaux d'influence, comment vous sentez l'influence française? À l'époque, il y avait des professeurs français qui marquaient la grégorienne. Les jésuites envoyaient le terrible père Tillet, qui était très savant en philosophie allemande. Il y avait des figures théologiques incroyables, mais françaises, et le théologien français était bien représenté. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parmi vos professeurs, vous avez des théologiens français présents à Rome?
Et cette année, j'ai un professeur qui est un théologien français. Ouais, enfin, c'est pas. Il y a beaucoup de nationalités différentes aussi au sein des professeurs. Je verrai aussi les années suivantes si je croise d'autres figures françaises au cours de mon parcours. Mais voilà, et après, il y a beaucoup d'étudiants français aussi, du séminaire français notamment.
Et qui montrent une certaine présence, qui sont un peu courtisés par le monde entier, parce que la France était quand même très puissante à Rome. Elle a protégé les papes sous Napoléon III. Elle a quand même eu une présence terrible depuis Charlemagne à Rome. Est-ce que les Africains se sentent un peu rassurés de voir que, non, que la France est là, puisqu'ils faisaient partie de cet empire français. Est-ce que le français reste une langue enseignée à la grégorienne? Il y a des cours en français?
Alors la francophonie est très présente et à la grégorienne, il y a 8 langues officielles dans lesquelles on peut notamment passer les examens et qui sont susceptibles d'être aussi des langues d'enseignement. Donc la présence de la langue française, elle est vraiment présente et la plupart de mes professeurs, même s'ils ne sont pas français, parlent français.
Bon, une dernière question très subjective. Êtes-vous heureuse à Rome et à la grégorienne?
Je suis heureuse à Rome, je suis heureuse de faire de la théologie à la grégorienne et ça implique des défis forcément en tant que laïque, mais ça en vaut le coup.
Dans vos perspectives, parce que les jeunes parfois parlent de leur vocation dans cette émission, vous pensez ceux qui vous voient faire la théologie, vous regardez la théologie jusqu'à vraiment jusqu'au cycle doctoral, vous sentez que vous pouvez tenir le rythme.
J'aimerais bien, à la grâce de Dieu.
Voilà, si vous
Pour
l'avez
pouvoir
dû,
faire un jour.
si vous dites à la grâce de Dieu, vous arriverez. On va essayer de rester à Rome, Clotilde Ducrot, qui vient de nous parler de la Grégorienne, son université. Et on va essayer de passer à la vie romaine, et vous pouvez participer, puisque Marie-Louise Malfette, chaque fois, nous enchante, nous fait voyager à travers Rome. Même si bientôt elle va rentrer à Paris, elle n'oublie pas ses classiques français. Et elle va nous parler de Stendhal et Rome. Et bien sûr, Clotilde, vous pouvez de nouveau intervenir et on dialoguera tous les trois ensemble autour de cette vie romaine à l'approche des vacances de la chaleur d'été qui ne fait que monter. Alors, Marie-Louise Malfette, toujours avec nous?
Oui, absolument.
Alors, nous venons de traverser le royaume des Jésuites, allons un peu vers celui de Stendhal et Rome, qui est toute une histoire. On vous écoute.
Merci beaucoup, Antoine. En effet, on reste à Rome et on va aller du côté de Stendhal, qui est en fait un peu un pendant de mon épisode de la dernière fois sur Chateaubriand, puisque je trouve que ce sont évidemment deux très grands auteurs de la littérature et qu'il est intéressant de comparer dans leur rapport à la ville de Rome. Et alors, Stendhal, 1783-1842. Donc, on est quelques années après Chateaubriand, mais quand même dans une période de l'histoire de France qui est la même. Et justement, Stendhal va découvrir l'Italie, plus ou moins dans les mêmes années que Chateaubriand, au début du 19e. Et ses premiers vrais séjours à Rome sont en 1827 et 1828. Et si vous vous rappelez, en 1828, Chateaubriand est ambassadeur de France à Rome. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vécu la même période de Rome, mais ont exprimé leurs impressions de façon assez différente, tout en gardant même, je dirais, un même objectif de livrer leurs sentiments les plus intimes. Et avec leur style propre. Et puis Stendhal va être amené à remplir lui aussi des charges diplomatiques. En 1830, il est consul à Civitavecchia, donc c'est près de Rome. Et il va donc lui aussi avoir une expérience similaire. Alors, ses écrits sur Rome sont multiples, mais aujourd'hui je vais m'arrêter plus spécifiquement sur les promenades dans Rome qu'il publie en 1829. Et c'est considéré comme une suite de Rome, Naples et Florence, son fameux livre un peu guide de ces trois grandes villes italiennes qu'il avait publié en 1817. Et les promenades dans Rome se présentent comme un journal de voyage entre 1827 et 1829, bien qu'écrit en fait entièrement à Paris. Donc vous allez voir, il y a ce petit jeu de reconstruction totale d'un un journal de voyage qui s'écrit au jour le jour. En réalité, Stendhal l'a écrit absolument entièrement à Paris, en se souvenant évidemment de ses propres expériences à Rome. Ce livre, qui s'inscrit dans ses livres guides de voyage, se place dans le contexte du Grand Tour, évidemment, dont une des étapes majeures est le voyage en Italie. Et on avait vu aussi avec Chateaubriand que le Grand Tour a évidemment son rôle dans ses expériences. C'est un vrai style d'écriture quand on le transcrit dans les livres. Alors pour qui est-ce que les promenades dans Rome sont écrites? Eh bien, c'est assez intéressant puisque Stendhal lui-même nous l'explique. Il dit qu'il écrit pour les happy few, il le dit vraiment en anglais, pour donc un public choisi et raffiné, amateur d'art et donc un lecteur actif. Donc il y a vraiment un rapport que Stendhal veut instaurer avec son lecteur et on verra aussi les enjeux de l'écriture de ce point de vue-là. Alors ce livre dit ce qu'il faut voir à Rome et surtout comment il faut le voir. C'est une initiation à la beauté et c'est intéressant parce que Stendhal voit trois Roms différentes. Il voit la Rome antique, la Rome ville-musée et la Rome papale de l'époque. Donc il a, disons, une attitude réflexive en réalité. Je vous l'ai dit, ce roman, ce livre est écrit à la première personne, comme un carnet de voyage, et Stendhal se présente en cicerone, donc en guide érudit, qui justement amène ses amis avec lui en voyage. Donc je vais vous lire quelques extraits, comme la dernière fois avec Chateaubriand, dans l'espoir de avoir choisi des lignes qui vous permettront de comprendre en quelques mots, l'esprit général de cette œuvre vraiment intéressante. Donc, je commence par évidemment un extrait qui se situe au début de l'ouvrage et vous verrez qu'il présente un petit peu sa posture, comment est-ce qu'il va s'y prendre. Donc, je commence. Il y a deux façons de voir Rome. On peut observer tout ce qu'il y a de curieux dans un quartier et puis passer à un autre. Ou bien courir chaque matin après le genre de beauté auquel on se trouve sensible en se levant. C'est ce dernier parti que nous prendrons. Comme de vrais philosophes, chaque jour nous ferons ce qui nous semblera le plus agréable ce jour-là. Rome, 5 août 1827. C'est pour la sixième fois que j'entre dans la ville éternelle. Et pourtant, mon cœur est profondément agité. C'est un usage immémorial parmi les gens avertis d'être ému en arrivant à Rome, et j'ai presque honte de ce que je viens d'écrire. Voilà pour ce premier petit extrait. C'est intéressant puisque dès les premières pages, le narrateur livre le programme de son voyage et les premières impressions qui, évidemment, s'inscrivent dans la mode du Grand Tour. Et on voit qu'il a peur de cette mode en réalité, puisque il dit que c'est presque banal d'être ému en arrivant à Rome. Et c'est intéressant parce que tout au long de son ouvrage, on sent qu'il a un peu peur de banaliser son discours, puisque tout le monde, en réalité, s'émeut à Rome, mais lui veut essayer de nous faire comprendre que ses sentiments sont réels et méritent d'être entendus. Et il a envie de les communiquer à son lecteur. Alors pour ce faire, il utilise, on va dire, un procédé intéressant, c'est celui de personnaliser ce parcours touristique et d'essayer de vraiment nous plonger dans ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est pour ça qu'il recrée aussi cet univers faussement romain, puisque en réalité il n'est plus à Rome, il est à Paris. Et donc je vais vous lire un deuxième petit extrait où il décrit son logement et là où il a choisi de séjourner. Et pour essayer de nous enserrer vraiment dans son expérience. Donc, je commence. Je pris un logement dans la maison habitée jadis par Salvator Rosa, Via Gregoriana. De la table où j'écris, je vois les trois quarts de Rome. Et en face de moi, de l'autre côté de la ville, s'élève majestueusement la coupole de Saint-Pierre. Le soir, lorsque le soleil se couche, je l'aperçois à travers les fenêtres de Saint-Pierre. Et une demi-heure après, ce dôme admirable se dessine sur cette teinte si pure qu'un crépuscule orangé surmonté au haut du ciel de quelques étoiles qui commence à paraître. Voilà un tout petit extrait, mais vous voyez, il veut nous faire vivre le coucher de soleil à Rome. Et c'est vraiment un procédé qui suit dans tout l'ouvrage. Alors, je continue avec un extrait qu'il est particulièrement intéressant de comparer à Chateaubriand, puisque c'est un extrait sur la nature romaine, la campagne romaine. Vous vous souvenez que Chateaubriand, à la fin de Voyage en Italie, écrit la lettre à Fontaine où il décrit la campagne romaine. Il parlait de la grandeur de cette campagne qui témoignait de paradoxe entre la Rome antique qui était grande et cette Rome devenue décadente. Bien, c'est intéressant parce que Stendhal va aussi nous dire des choses dans ce sens-là, mais à sa façon. Et donc, je commence, et là, vous voyez, il donne encore une date, comme s'il était vraiment là, ce jour-là, sur place. 15 août. Le 5 août, nous traversâmes ces campagnes désertes et cette solitude immense qui s'étend autour de Rome à plusieurs lieues de distance. L'aspect du pays est magnifique. Ce n'est point une plaine plate, la végétation y est vigoureuse. La plupart des points de vue sont dominés par quelques restes d'aqueducs ou quelques tombeaux en ruine qui impriment à cette campagne de Rome un caractère de grandeur dont rien n'approche. Les beautés de l'art redoublent l'effet des beautés de la nature et préviennent la satiété, qui est le grand défaut du plaisir de voir des paysages. Souvent, en Suisse, un instant après l'admiration la plus vive, il se trouve qu'on s'ennuie. Ici, l'âme est préoccupée de ce grand peuple qui maintenant n'est plus. Tantôt, on est effrayé de sa puissance, on le voit qui ravage la terre. Tantôt, on a pitié de ses misères et de sa longue décadence. Voilà pour cet extrait qui est un tableau des paysages de la campagne romaine. Et il y a deux mots-clés que je trouve intéressants, c'est grandeur et absence d'ennui. Évidemment, Chateaubriand aussi parlait de grandeur. Et l'ennui est vraiment important aussi dans la vie de Chateaubriand, puisque ça l'a un peu persécuté toute sa vie. Et là, on trouve un Stendhal qui nous dit, en fait, la campagne romaine est tout sauf ennuyeuse, et il l'oppose à la Suisse. Ça, je trouve ça assez amusant en réalité. Et il nous dit qu'il y a quelque chose de sublime, en réalité, il ne le dit pas, mais on peut le sentir quand il dit qu'on est effrayé de cette puissance. Et donc de la force en réalité qui sort de ce paysage. On voit vraiment le syndrome de Stendhal qui s'était, on dit toujours qu'il s'est évanoui devant Santa Croce à Florence. Et peut-être aurait-il pu s'évanouir devant les paysages de Rome quand on voit comment il les décrit. Et je vais terminer évidemment par un extrait qui décrit on va dire des monuments les plus iconiques de Rome, le Colisée, évidemment. Il nous le décrit de façon assez méthodique, en enchaînant, disons, ce qu'on peut voir du Colisée et à partir du Colisée, etc. Et après, il va nous livrer en réalité un des enjeux majeurs de cet ouvrage, c'est-à-dire l'idée de vouloir transmettre au lecteur ses impressions, mais en réalité avec la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Et on va le voir dans le texte. Donc je commence. Rome, 16 août. Le Colisée offre trois ou quatre points de vue tout à fait différents. Le plus beau, peut-être, est celui qui se présente aux curieux lorsqu'il est dans l'arène où combattaient les gladiateurs et qui voit ces ruines immenses s'élever tout autour de lui. Ce qui m'en touche le plus, c'est ce ciel d'un bleu si pur que l'on aperçoit à travers les fenêtres du haut de l'édifice vers le nord. Il faut être seul dans le Colisée. Souvent, vous serez gêné par les murmures pieux des dévots qui, par troupe de 20 ou 15, font les stations du calvaire, ou par un capucin qui, depuis Benoît XIV, qui restaura cet édifice, vient prêcher ici le vendredi. Tous les jours, excepté au moment de la sieste ou le dimanche, vous rencontrez des maçons servis par des galériens, car il faut toujours réparer quelques coins de ruines qui s'écroulent. Mais cette vue singulière finit par ne pas nuire à la rêverie. Je saute quelques lignes. Au midi, le regard passe par-dessus les ruines de l'amphithéâtre, qui, de ce côté, sont beaucoup plus basses, et va s'arrêter au coin dans la plaine, sur cette sublime basilique de Saint-Paul, incendiée dans la nuit du 15 au 16 juillet 1825. Je saute encore. Je le sens trop. De telles sensations peuvent s'indiquer, mais ils ne se communiquent point. Ailleurs, ces souvenirs pourraient être communs. Pour le voyageur placé sur ces ruines, ils sont immenses et pleins d'émotions. Ces pans de murs noircis par le temps font sur l'âme l'effet de la musique de Cimarosa, qui se charge de rendre sublimes et touchantes les paroles vulgaires d'un libretto. L'homme le plus fait pour les arts, Jean-Jacques Rousseau par exemple, lisant à Paris la description la plus sincère du Colisée, ne pourrait s'empêcher de trouver l'auteur ridicule à cause de son exagération. Et pourtant, celui-ci n'aurait été occupé qu'à se rapetisser et à avoir peur de son lecteur. Je saute. Pour donner une idée quelconque des restes de cet édifice immense, plus beau peut-être aujourd'hui qu'il tombe en ruine qu'il ne le fut jamais dans toute sa splendeur, alors ce n'était qu'un théâtre, aujourd'hui c'est le plus beau vestige du peuple romain, il faudrait connaître les circonstances de la vie du lecteur. Je saute. Le monde n'a rien vu d'aussi magnifique que ce monument. Voilà pour ce dernier extrait qui est extrêmement dense d'éléments. Et de clés de lecture du style aussi de Stendhal. Alors, qu'est-ce que c'est que cet extrait? Ben, c'est une sorte de visite guidée dans le Colisée. J'ai sauté des extraits qui étaient un petit peu trop méthodiques, qui passaient d'un point à l'autre. Mais Stendhal nous décrit les grandeurs du Colisée et les effets contrastants. Le passé romain, le présent papal. On voit aussi, on reconnaît un petit peu cette division dont je vous parlais au début, des trois Roms différentes, la Rome antique, la ville musée, la Rome papale. On reconnaît un petit peu chaque facette dans cette description du Colisée. Et en réalité, même s'il y a un côté méthodique, mais on sent l'extase de son ton. On sent aussi cette crainte dont je vous parlais de banaliser son discours. Et il rappelle que les émotions que l'on ressent devant un monument sont avant tout une histoire personnelle. Et c'est vraiment ce qu'il cherche à dire. Une histoire personnelle, subjective et presque intime. Et donc, peut-être quelque part, difficile à transmettre en réalité. C'est tellement personnel et tellement intime que il a l'impression que les mots sont trop froids. En réalité, est tellement froid qu'ils peuvent donner un ridicule à ce qu'il écrit. Il parle de ce que pourrait en penser Jean-Jacques Rousseau. C'est intéressant. Il a vraiment envie de dire au lecteur, essaie de rentrer dans mon texte, même si moi je ne peux pas rentrer dans ta vie qu'il faudrait pouvoir relier à ce que tu vois. Parce que c'est vraiment ce que Stendhal fait, c'est-à-dire qu'il vit ce qu'il visite avec son histoire et ce qu'il est. Et donc, c'est vraiment une invitation, en fait, adressée au lecteur à faire de même ce voyage intérieur en réalité. Et donc, voilà, Promenade dans Rome se vit au fil des pages, comme un long parcours aux côtés de Stendhal, où on est guidé par le regard même de l'auteur. Et on passe des impressions aux extases, aux émotions, aux récits historiques, aux réflexions. En fait, cette œuvre reflète pleinement une époque, le 19e, où le voyage est un art, un trait d'élégance d'une élite, les happy few, comme aurait dit Stendhal, mais c'est aussi le cri du cœur d'un passionné d'Italie. Et peut-être Stendhal est-il le meilleur romanophile de France que l'on pouvait choisir pour baptiser la librairie française qui est à Rome, la librairie Stendhal. Et donc,
Absolument.
qu'est-ce que voilà, pour terminer, je dirais que Promenade dans Rome exprime quelque chose de Rome, à savoir la grandeur dans la décadence. L'expérience différemment intime par rapport à Chateaubriand, voilà, de ses visites. Les impressions poétiques et mélodiques, il évoque la musique de Cimarosa. C'est très plaisant. J'ai essayé, j'ai fait le test. Je me suis mise à écouter Cimarosa en lisant Stendhal. Ça marche très, très bien. Et aussi la question des limites de la transmissibilité par l'écriture. Stendhal a peur de ne pas passer son message au lecteur. Et donc peut-être Stendhal aurait aimé un cœur à cœur avec le lecteur. Et je finirai peut-être par cette suggestion. Il ne tient qu'à nous, lecteurs, de le satisfaire. Merci beaucoup.
Merci Marie-Louise, c'est peut-être une des chroniques qui couronne toutes les restes avant de commencer peut-être, si vous restez avec nous, je serai très heureux, une nouvelle série de chroniques, mais avant de reprendre les paradoxes de Stendhal que vous soulevez si bien, je laisse à Radio Courtoisie la voix de cette annonce de la liberté de la presse.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Et voilà, je reviens donc à mes deux romaines et je vais entamer un débat avec vous qui est un peu stendhalien parce que, comme Marie-Louise le sait très bien, l'histoire de ce livre, quand on l'aborde, déjà, il y a ce point commun avec Chateaubriand, chère Marie-Louise, vous l'avez montré, c'est que finalement, les deux ont écrit de retour à Paris. Et même pour l'itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand a écrit à son retour. C'est-à-dire, on parle de, il a recomposé. C'est un peu comme un musicien qui prend quelques notes sur un petit papier, puis il recompose la symphonie. Et là où c'est intéressant, et j'aimerais bien que vous jouiez un peu subjectivement votre propre promenade à Rome, parce que ne voulant pas vraiment écrire ce livre, vous connaissez l'histoire de ce cousin, je crois, Romain Colomb, je crois, qui est venu le voir pour le convaincre de faire cette tâche avec lui, Stendhal, que je croise presque chaque 2 jours quand je vais à la Bibliothèque nationale de France, rue Richelieu, dans cette absolument un peu comme quand on passe à Rome devant le palais de Minerve où il a habité, est devenu hôtel, je crois, n'est-ce pas Marie-Louise aujourd'hui? C'est un hôtel de 4-5 étoiles.
Oui, je ne sais pas, je ne sais pas.
Oui, je crois que c'est devenu 4-5 étoiles. Il faut éviter de prendre des chambres là-bas. On peut les enrichir, mais et on trouve un peu ces pancartes où il a commencé à écrire sous Charles X quand même. Charles X n'était pas encore chassé de France. On était loin des trois journées glorieuses de cette révolution romantique. Mais quand même, il a beaucoup souffert pour écrire cela parce que c'est devenu comme un guide. Il a, je crois, ajouté une expression à ce livre pour des « happy few ». Pour une sorte d'élite qui doivent lire ce livre et se balader et puis permettre aux gens de se cultiver. Aujourd'hui, il y a tellement de manuels qu'on ne pense plus lire les promenades de Stendhal. C'est trop peut-être baroque, trop sophistiqué. Ils veulent des manuels à l'allemande, un peu d'autoroute. On a l'essentiel en avance, mais les gens ne savent plus regarder ces monuments comme le faisait Stendhal. On est d'accord, Marie-Louise.
Oui, en effet, il faudrait être patient et passionné pour voir Rome comme l'a vu Stendhal.
Oui, mais en même temps, lui-même a souffert parce que le cousin en question faisait des bibliographies. Il voulait vraiment faire un vrai manuel de guide et rendre célèbre le livre. Mais en même temps, Stendhal, qui vivait une dépression à l'époque, n'arrivait pas à retrouver toutes ses sensations. Et on a l'impression dans ce livre qu'il va faire semblant d'être là au jour le jour, comme s'il écrivait un journal, en fait, un journal vivant.
Exactement.
comme les Anglais ont fait, ou la présence de Keats. Alors, ma question s'adresse à vous deux. Je reviens à Clotilde Ducrot et puis je laisse Marie-Louise respirer après cette brillante chronique. Chère Clotilde Ducrot, vous vous promenez à Rome depuis un an, n'est-ce pas?
Ça fait bientôt, oui, plutôt 2 ans.
2 ans, très bien. Et vous avez vos propres impressions. J'ai envie de vous poser des questions concernant cette ville éternelle. J'y ai vécu moi-même 3 ans. J'étais à l'école française de Rome comme boursier. Je voyais le milieu. C'était Palazzo Farnese pour les Français, la Villa Médicis, la Piazza Navone pour notre foyer de l'école française. J'aimerais bien que vous me disiez un peu votre impression, et je reviens, parce que c'est une question que je vous ai posée, mais avec un autre angle, sur la présence française à Rome. Est-ce qu'en la sent, nous avons les plus beaux palais, n'est-ce pas? Un échange entre
oui.
Mussolini et nous avons le Palazzo Farnese, et bon, on a donné aux Italiens la rue de Varenne, tout ça. Mais comment vous sentez la présence française? La Trinité des Monts, la Villa Médicis, tout cela, décrivez-le comme si vous faisiez votre propre standard. Liberté de subjectivité, poésie, c'est à vous, puisque vous avez choisi de vivre là-bas.
Alors, je ne saurais pas restituer mon expérience romaine aussi bien que Stendhal, mais c'est vrai qu'en arrivant à Rome, on est tout de suite accueilli par la communauté française, on est tout de suite, enfin, on visite, parmi les premières choses qu'on visite, les pieux établissements, les églises françaises, tous ces
Saint-Louis
tous
des
ces
Français,
monuments,
voilà.
Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts, Saint-Yves des Bretons, toutes ces églises qui témoignent encore de cette présence française à Rome. Et à travers les ambassades aussi, que ce soit l'ambassade de France auprès de l'Italie ou l'ambassade de France auprès du Saint-Siège aussi,
La Villa
qui maintient
Bonaparte.
Ce lien-là. Oui.
Voilà. Alors, décrivez-moi une expérience esthétique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu de plus beau dans cet héritage français, pour ne pas vous disperser, même si vous avez un autre monument que vous aimez le plus. Parmi les monuments, l'héritage français, est-ce Saint-Louis des Français que vous trouvez le plus beau, ou les salons de Palazzo Farnese, quand l'ambassade, j'espère, vous invite à ses cocktails annuels du 14 juillet, sinon je m'en occupe, dites-moi. Alors, une expérience esthétique que vous avez vécue.
Et je pense que l'expérience la plus belle que j'ai vécue dans ces monuments français a plus lieu à la Trinité des Monts, parce que il y a non seulement l'église et le couvent de la Trinité des Monts, mais aussi tout le parc à côté avec une terrasse depuis laquelle on peut voir une vue de Rome absolument magnifique. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps dans l'église, passer du temps avec les jeunes du foyer qui sont accueillis là-bas, qui sont des jeunes français, pas que français, mais généralement francophones. J'ai aussi pu découvrir l'école de l'Institut du Sacré-Cœur, qui est une école qui a lieu à la, enfin, qui est à la Trinité des Monts. Et donc, on découvre dans ces bâtiments-là, dans ces jardins-là, toute la richesse de la vie romaine, de l'école italienne, mais aussi les veillées d'adoration, les prières. Tout seul dans une église, on a l'impression qu'on est seul dans une des plus belles églises de Rome, alors que Rome est toujours bondée, toujours plein de touristes, et c'est assez extraordinaire de trouver autant de calme et autant de paix dans un lieu au plein centre de Rome.
Et cette paix, vous ne croyez pas qu'elle est due finalement? C'est qu'en traversant les vieilles rues, rien qu'en traversant, on part de Piazza Navone, on rentre dans le vieux quartier, on Trastevere, et puis on a chaque, comme à Venise finalement, des centaines d'îles, des centaines d'églises. Des centaines d'églises, mais dans chaque église, il y a les plus grands peintres qui ont laissé leur chef-d'œuvre pour une petite église d'une petite île finalement, relié par un pont. On a l'impression, sans avoir un peu cette présence agitée de Venise, que Rome, c'est cela, c'est que les places qui accueillent ces églises sont des havres de paix, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a traversé le pont de l'église, ou bien une messe, ou bien une prière, ou bien une méditation esthétique. Croyez pas que ce sont les églises qui ont pacifié par les lieux sacrés cet endroit ?
Je pense, oui, parce que dans les églises, il y a encore ce silence qu'il y a nulle part d'autre. Finalement, à Rome, ça reste une capitale avec beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup d'activités un peu partout. Mais dans les églises, il y a à la fois, comme vous l'avez dit, la beauté des œuvres d'art, la beauté esthétique, et puis le silence, le sens du sacré qui permet de s'isoler, de respirer un petit peu par rapport au brouhaha romain.
Surtout pour une étudiante en théologie, hein. C'est que ça prolonge tout à fait. Alors, je vais vous laisser préparer la prochaine question, qui sera ma dernière pour ne pas vous épuiser, mais je profite de ce temps, parce que là, l'émission, je répète à mes chers auditeurs, n'est pas en direct, elle a été enregistrée. J'étais obligé de partir à l'Union européenne pour discuter de cette force qui doit remplacer la finule. Je vous, bien sûr, rendrai compte. Nous avons des amiraux français qui vont essayer de préparer à ce que la présence française ne soit jamais absente du sud du Liban, et Total aussi. Et donc, vous pouvez m'envoyer un mail pour questionner nos jeunes romaines. Et la question que je vous demande de préparer, Clotilde Ducrot, si vous devez recevoir un être cher à Rome, des amis, des parents, quel est le circuit que vous leur proposez? Ils ont une journée, à peine une journée. Quel est votre circuit que vous leur faites? Ils n'ont jamais été à Rome et vous leur dites, je vous emmène là et là, vous passez la journée avec eux. Alors imaginez ce circuit et je vous donnerai tout à l'heure la parole pour nous faire voyager. Et je reviens à Marie-Louise et sans Stendhal, elle qui nous a parlé des promenades à Rome de Stendhal. Même chose, chère Marie-Louise. Je commence par vous et comme ça, Clotilde pourra préparer sa visite. Si vous avez à prendre votre père, votre mère, votre frère, et même s'ils sont à moitié romains, italiens, comme vous, vous leur dites, je vais vous faire découvrir quelque chose à Rome et qui est personnel. Quel est le trajet que vous faites? Je vous écoute. On vous suit. C'est-à-dire, suivez le guide, comme dit l'autre. On vous suit pour une visite et je laisse Clotilde Ducrot préparer la sienne.
Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs Rome, en fait. Donc, il y a évidemment, en fait, un peu comme l'aurait dit Stendhal. C'est-à-dire qu'il y a la Rome papale qui est incontournable. Donc, il y a Saint-Pierre et il y a les musées du Vatican qui sont un écrin de beauté à chaque mètre. Donc, c'est vraiment époustouflant. Et je dois dire que les musées du Vatican sont une des expériences les plus marquantes à Rome, vraiment. Et ensuite, je ferai un parcours qui, pour moi, est vraiment intéressant et qui révèle en réalité un petit peu, raconte l'histoire de Rome. C'est c'est essayer de visiter les palais des familles romaines qui ont toutes joué un rôle à un moment ou à un autre, toujours en lien avec le pape, parce que à Rome, on devenait important du moment où on avait un cardinal ou un pape dans sa famille, et qui donc, dans leurs palais, qui sont en général encore très bien conservés, eh bien, racontent l'histoire artistique, mais aussi politique de la ville, tout au long des siècles. Et puis, je terminerai par une touche un peu plus, que je considère un peu plus intime, et dont j'ai parlé à une de mes chroniques, c'est la Rome médiévale, que je trouve charmante et beaucoup plus discrète, évidemment, puisqu'elle a été en partie détruite, et puis... par définition, les bâtiments médiévaux sont en général plus bas. Mais c'est une Rome un peu plus petite, avec des rues un peu plus étroites, avec des coins un petit peu plus cachés, et donc qui laisse le temps à la rêverie et à un voyage dans le temps extrêmement agréable. Donc voilà un petit peu le parcours que je préfère à des proches qui devraient totalement découvrir la ville.
Donc ça sera une... Tu seras une guide, pardon, vous serez à la radio, on se vous voit. Même une sorte de guide stendhalien, surtout.
Espérons-le.
Espérons-le. Mon cher Marie-Louise, je vous remercie de cette dernière visite. Je me tourne vers Clotilde Ducrot. Imaginez que vous recevez vos frères, sœurs, mères ou votre oncle, votre tante Suzanne, l'oncle Henri, que je connais, qui sont de mon village de Saint-Germain-des-Prés, devant la Grande Tour. Qu'est-ce que vous leur offrez en une journée ?
Alors moi, je suis une grande partisane de faire tout à pied à Rome, puisque de toute façon, les transports ne fonctionnent pas et on ne découvre la ville vraiment qu'en marchant. Je suis aussi partisane de se lever tôt et se coucher tard, parce que pendant la journée, il fait chaud, il y a du monde. J'emmènerai d'abord un proche ou des proches à Saint-Pierre dès le matin. Profiter de l'immensité de la basilique pendant qu'il n'y a pas encore trop de personnes qui font la queue pour y entrer. Et éventuellement monter sur la coupole, profiter de cette magnifique vue, puisque la coupole de Saint-Pierre reste la plus haute. On n'a pas le droit à Rome de construire des bâtiments plus hauts que la coupole de Saint-Pierre. Et puis, pendant le reste de la journée, il faut aussi pouvoir déambuler, aller un peu là où nos pas nous mènent, tout en faisant quelques musées quand même, parce que c'est la grande richesse de Rome, la Galerie Borghese notamment, qui a des très belles sculptures, des très belles peintures. Et puis, j'aime bien aussi inviter les gens qui viennent me rendre visite dans mon quotidien. Donc, si je peux faire entrer mes proches dans la Grégorienne, faire un petit tour, ça me fait plaisir aussi.
Bah, les jésuites sont toujours ouverts au monde entier.
Voilà, exactement.
C'est comme disait Ignace de Loyola dans toutes ses lettres. Ignace, moi, je suis un ancien des pères jésuites, je les aime beaucoup. En même temps, je les taquine. Ignace, quand il écrivait ses lettres aux grands de ce monde, il écrivait « Monseigneur dans Monseigneur » à moi. C'est-à-dire, Monseigneur, vous, dans le monde, dans Monseigneur à moi, le Christ. C'était réglé, quoi. C'est un peu un Quaker à l'américain. Ben, écoutez, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous garde pour des futures chroniques. L'émission est de plus en plus pour les jeunes. Un jour, je la céderai aux jeunes. Moi, je suis pour faire entendre la voix de l'Orient, parfois, mais il est très difficile, chers auditeurs, d'appeler Beyrouth. Le Sud-Liban est détruit, mais je vous promets d'avoir l'évêque émérite de Tyre pour qu'il nous parle de ces ruines, pas romaines, mais ruines du premier diocèse du monde. Je vous promets, Monseigneur Hage, le fameux Monseigneur Hage qui est auprès du patriarche, que vous avez déjà entendu, je vous promets de rappeler aussi la mère supérieure des Antonines qui voit sœur Naza Akouri, fille de prêtre elle-même, hein, je connais quelque chose, j'ai vécu cette expérience. Elle, je la taquine en disant on sort d'une soutane tous les deux, hein, bon. Même si en France, il faut la chercher, la soutane, pour un peu la découvrir. Mais là aussi, nous devons les appeler pour savoir qu'en est-il de toutes ces écoles détruites. Malheureusement, l'expérience milicienne de Hezbollah n'a rapporté que des échecs. J'espère qu'ils vont comprendre qu'il faut revenir à la vie civile, être un parti politique et construire le Liban. Pour vous offrir un beau cadeau, chère Clotilde Ducrot, que je tiens à revoir à la rentrée pour d'autres chroniques de votre choix, et à Marie-Louise Malfette, qui nous a toujours enchanté de ses chroniques, mais qui va revenir en France bientôt, pour vous offrir le concerto pour deux pianos en do mineur, c'est l'œuvre BWV de Bach de 1062, et par l'interprétation des pianistes que je chéris dans mon cœur, Tania et Eric Heitzig, qu'ils ont enregistré chez Cassiopée en 2007 sous la direction artistique d'Alain Nohant. Mais l'interprétation est rare, le son en est aussi rare. Je laisse mon chef technicien Benoît nous lancer ce magnifique concerto pour piano en do mineur par Tania et Eric Heitzig de Jean-Sébastien Bach. Thank you.
Venez d'entendre le Libre Journal d'Antoine Assaf, émission préenregistrée le 25 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 27 juin, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.